Alors, aujourd'hui, ma présentation vise à vous présenter quelques aspects d'un projet de recherche pilote ou exploratoire qui a pour titre « Des gestes professionnels d'enseignante de la danse en milieu scolaire pour accompagner les élèves en création ». Plus spécifiquement, je vais vous communiquer en fait une méthodologie que je mets un peu à l'épreuve pour révéler le dire et le faire. Une façon de lier une stratégie identitaire à l'action en classe. Alors, je vais offrir un préambule à cette étude. Je vais parler de problématiques de mon cadre théorique et les questions de recherche. J'aborderai la méthodologie et surtout quelques résultats vraiment préliminaires de l'analyse. Et je ferai un constat à ce jour sur ce projet pilote. Pour conclure ensuite, je vais essayer de le faire dans les 20 minutes prescrites. Je vais commencer par vous citer Claude Letard et Maurice Tardif qui affirment que le développement d'une identité professionnelle d'un individu au travail commence dès sa formation initiale et se poursuit tout au long de sa carrière. Toutefois, plus spécifiquement au Québec, avant 2011, afin de former les enseignants de la danse en milieu scolaire, il n'existait pas de source scientifique pour les accompagner dans ce développement. L'identité des enseignants de la danse en milieu scolaire n'était pas vraiment documentée. Alors voilà l'une des raisons pour laquelle je me suis engagée dès 2006 à entreprendre une étude doctorale sur l'identité des artistes enseignants de la danse à l'école. En 2011, les résultats de ma recherche doctorale ont été théorisés en un modèle de construction identitaire d'enseignants de la danse que j'appellerai dorénavant EDMS lors de cette présentation. 18 participantes ont collaboré à cette étude. Dans cette thèse, je soutiens que la construction identitaire peut se réaliser au sein de 6 sphères de négociation de l'identité. Chacune de ces sphères peut être habitée par une tension identitaire spécifique, qu'elle soit intra- ou intersubjective, que l'EDMS tentera d'apaiser par une stratégie identitaire intra- ou intersubjective. Sans être l'objet spécifique de cette présentation aujourd'hui, je présenterai brièvement les sphères dont il s'agit. Ces sphères sont des espaces de compromis et de gestion de l'identité dans une recherche de cohérence personnelle ou professionnelle. Au sein de celle-ci, les EDMS tentent de résoudre ou d'apaiser des tensions ressenties par des stratégies définies ici comme des actes, soit discursifs ou comportementaux, visant la négociation ou la gestion de toutes les composantes identitaires. Les sphères sont illustrées sur les axes de la double transaction identitaire, un concept développé par le sociologue Claude Dubard. Sur l'axe biographique, 3 sphères, donc devenir, se réaliser et se projeter en tant que DMS, dont les tensions intrasubjectives sont apaisées par des stratégies intrasubjectives. Je poursuis en plaçant les 3 sphères sur l'axe relationnel, dont les tensions intersubjectives sont apaisées par des stratégies intersubjectives. Chaque sphère identitaire, chaque sphère de cette négociation identitaire ont une visée. Devenir est celle où l'on tente d'atteindre une identité désirée, soit par une formation initiale ou continue. Se réaliser est la sphère où l'on tente de négocier différentes définitions de soi. Se projeter, où l'on envisage son identité future. Faire sa place, où l'on tente d'accroître la crédibilité de la profession dans l'institution scolaire. Rencontrer l'autre est celle où l'on tente d'obtenir une reconnaissance sociale de la part d'autrui. Et finalement, agir est la sphère où l'on tente de gagner une aisance dans la pratique auprès des jeunes. La sphère de négociation identitaire qui nous préoccupe plus particulièrement et qui a impulsé le projet de recherche pilote en cours est la sphère de l'agir. Pour gérer les tensions identitaires dans l'agir, les EDMS ont fait ressortir des rôles qu'elles disaient jouer en classe ainsi que des postures qu'elles adoptèrent en classe. En résumé, pour construire leur identité et apaiser les tensions de la pratique, les EDMS disent utiliser la stratégie d'alternance des rôles et postures en classe. Voici les rôles énoncés. ça bouge. Encourager les attitudes artistiques chez les élèves. Faire découvrir le mouvement aux élèves par des approches sensorielles et expressives. Cibler des apprentissages signifiants en mobilisant les postures d'artistes et de pédagogues. Soutenir les élèves en création. Favoriser les échanges et la réflexion par le questionnement de l'élève. Être un passeur culturel, éduqué par la danse. Ils ont aussi dit alterner les postures suivantes, tant artistiques que pédagogiques. Chorégraphe, interprète, passeur culturel, appréciateur, esthète ou critique, ainsi qu'éducateur, guide, questionneur, accompagnateur ou évaluateur. Bien que très éclairant sur le phénomène de la construction identitaire, je percevais les limites des résultats. Ils ont émergé de données discursives exclusivement par des entretiens biographiques et des entretiens sur les représentations. Or, il était pour moi impératif d'aller sonder le terrain pour documenter davantage les liens entre la construction identitaire et l'agir, par l'observation participante et la captation d'images en classe avec des élèves. Je voulais donc lier le dire au faire, l'identité et l'action de l'EDMS. Toutefois, il me fallait me doter d'un levier conceptuel afin d'éclairer et paramétrer mes cibles d'observation. Après examen de la littérature, c'est le concept de geste professionnel qui me permettait le mieux de faire le pont entre ces dires et les faire en classe, entre identité et action, pour ne pas dire en action ou réflexion en action. L'examen des écrits de Alain, par exemple, Bucheton, Jourot sur l'agir des enseignants et de ceux de Arnaud Bestieux, Félix, Necker, Torel Alaise sur l'agir des EDMS ici en France montre qu'il est composé de gestes professionnels qui mobilisent à la fois divers savoirs et valeurs, des éléments de la formation reçue, des expériences personnelles et qui actualisent des compétences professionnelles. Ces gestes, dit Bucheton, traduisent en acte une culture, une identité, en donnant cohérence et forme à l'action tout en soutenant l'invention. Selon Anne Jourot, ils sont les mouvements intersubjectifs pensés pour soi et pour l'autre, tels des empreintes d'une pensée. Ils ouvrent différents registres de dialogue. Cet auteur les perçoit comme une élaboration plurielle de l'identité ou un désir d'inscrire une trace qui parle de la biographie de l'auteur. Considérés comme des arts de faire et de dire, les gestes professionnels, selon Alain, sont situés et possèdent un potentiel de signification. Ils représentent la forme discursive et située d'actions liées à un référentiel, à un champ de savoir et d'expertise au sein d'une pratique culturellement et socialement située. En fait, les gestes de l'enseignant sont des expressions concrètes de son activité professionnelle et peuvent être abordés selon différents champs d'études. On le retrouve en ergonomie, en anthropologie, en pédagogie ou en didactique. En fait, Cizeron dit que même ce concept de geste professionnel subit une dispersion notionnelle. Effectivement, on retrouve le geste professionnel chez Bucheton, Jourot, Vergniaud, Pastré et Maillan, mais pourtant aussi chez Sansevie, le geste d'enseignement, le geste du professeur chez Chevalard. Et les didacticiens l'utilisent aussi abondamment. Toutefois, tous s'entendent pour affirmer que leur mise au jour doit se faire grâce à des outils méthodologiques efficaces, robustes et structurants pour révéler toute action physique, langagière ou mentale. Selon Vergniaud, et pour plusieurs ici, vous l'avez dit à travers toutes vos présentations de l'après-midi, la pensée est un geste. Il peut s'agir d'un mouvement du corps ou d'un ensemble de gestes, gestum, qui reflètent les pratiques. À la lumière donc d'études consultées sur les gestes professionnels, voilà que c'était pour moi un concept à privilégier pour répondre à mes questions de recherche, qui sont les suivantes. Quels sont dans l'action les gestes professionnels posés par des EDMS, notamment dans l'accompagnement des élèves en création, en situation de création? Pourquoi en situation de création? Parce qu'il s'agit d'une forme répandue en milieu scolaire, mais qui est très peu documentée, en fait, dans sa forme d'accompagnement. Deuxième question, quel lien existe-t-il entre les postures et rôles autodéclarés par les EDMS qui avaient été relatés dans le modèle de construction identitaire et les gestes professionnels déployés en classe? J'ai référé au cadre théorique de Bucheton sur les gestes professionnels pour analyser les données et répondre à mes questions qui avaient pour but d'approfondir la compréhension de la sphère de négociation identitaire de l'agir. En fait, ce sont les éléments constitutifs du cadre de Bucheton. Alors, les gestes de tissage, d'étayage, d'atmosphère, de pilotage des tâches qui nourrissent les objets de savoir et de technique. Or, ce concept me donnait une clé d'intelligibilité pour étayer les liens entre le faire et le dire. Alors, forte de ce cadre, j'ai donc amorcé une étude qualitative exploratoire sur le plan méthodologique, en continuité avec les résultats de ma thèse. Pour repérer les gestes posés par les enseignants, il était évident pour moi qu'il fallait privilégier une forme d'ethnographie qui se manifestait par l'observation participante et la captation vidéo. De plus, comme ces gestes sont aussi pensés et que le geste peut être privé sans projeter de repères visuels, nous avons aussi recouru à l'entretien d'explicitation de l'action de Pierre Vermerch, ainsi qu'à l'autoconfrontation selon Clos pour questionner le vécu par évocation d'un souvenir vécu ou d'un moment marquant du passé dans le cas de l'entretien d'explicitation ou du rappel stimulé par vidéo dans le cas de l'autoconfrontation. Alors, j'ai la cueillette de données s'est faite par la capture filmée de 4 périodes de 3 artistes enseignants en classe au secondaire qui avaient participé à mon étude doctorale, donc en accompagnement des élèves à la création. J'ai aussi une part d'observation participante par la prise de notes de terrain à partir du cadre de Bucheton. J'ai fait des montages d'extraits filmés de gestes professionnels qui ont été sélectionnés dans les classes observées. Mener des entretiens d'explicitation de leurs actions auprès des jeunes en création et mener des séances d'autoconfrontation. Je centrerai aujourd'hui davantage les analyses préliminaires des entretiens d'explicitation et je vous présente la question qui a été posée aux participantes à la recherche. Alors, prends le temps de revenir sur un moment positif de ta pratique professionnelle comme accompagnatrice de la création des élèves que tu aimerais décrire, si tu veux bien, dans un contrat d'échange pour engager l'entretien. Le protocole d'entretien et d'explicitation a été appliqué par une étudiante de la maîtrise en danse qui avait fait une formation en EDE et qui a été coachée par une collègue qui est également formée au niveau plus avancé en entretien d'explicitation. J'étais présente lors de ces entretiens et 2 moments ont été relatés par les participantes, des moments qui duraient à peu près 20 minutes chacun. Alors, les résultats préliminaires sont les suivants. En fait, j'ai pu, par des petites cartes, analyser 6 moments et j'ai tenté à la fois de faire des liens entre les gestes, les postures et les rôles qui pouvaient émaner des extraits d'entretien. Alors, par exemple, prendre la place de l'élève prend deux visages. Alors, l'une des participantes dit « Je prends la place d'Anne-Sophie, car j'ai vu qu'elle était égarée. J'ai joué le rôle d'interprète pour questionner le sens des déplacements des membres de l'équipe de création. » Ça amenait à l'attention de l'élève chorégraphe que le déplacement devait être motivé pour qu'il puisse apprendre à clarifier les intentions. Je vivais les sensations de l'interprète, ce qui m'a fait dire que les chorégraphes ne donnaient pas assez d'informations. Alors, en se mettant à la place de l'élève et de jouer son rôle, en fait, l'enseignante peut mieux comprendre par son propre vécu ce dont l'élève peut avoir besoin ou ce dont les élèves peuvent avoir besoin parce qu'en milieu scolaire, souvent, il y a co-création, c'est-à-dire que les jeunes vivent à la fois 2 rôles, à la fois interprète et chorégraphe. Donc, il manque de distanciation et l'enseignant peut justement jouer ce rôle d'amener finalement la distanciation du travail des jeunes. Le faire pour vrai, c'est une autre façon de prendre la place de l'élève. Un autre exemple, en fait. Une autre enseignante dit « J'ai repris les mouvements en prenant la place d'une élève. En prenant sa place, j'ai laissé mon poids dans un travail de partenaire. Les mouvements se sont transformés, n'étaient plus les mêmes. Je sens que je déstabilise l'élève en reprenant la séquence avec elle. Le plus important est de faire prendre conscience du poids avec une intention de sentir les énergies et les différentes dynamiques. Je sens que j'étais complice et partenaire de l'élève. J'avais un sentiment de satisfaction. Et dans le corps de l'élève, je savais que ça changeait, que le mouvement s'était modifié. Je pouvais le sentir. La distance entre nous a changé. Je voyais par son corps qu'elle comprenait. Je me sens satisfaite. Elle l'a fait pour vrai. Elle m'a soulevée du sol sans que ce soit accessoire. Les élèves qui n'étaient pas à l'aise ont vécu un déclic. » Alors, je peux ressentir, en fait, et ce qui m'a permis de faire les liens d'analyse, finalement, entre les alternances des rôles qui avaient été dégagées dans les stratégies identitaires et le discours de l'entretien, j'ai pu identifier, en fait, qu'elle relatait, en fait, un geste d'étayage et, pour l'autre, un geste de tissage qui donnait un sens, finalement, à la situation. C'est en fait le type de résultat que je vois poindre, en fait, à commencer à faire des liens et à donner du sens, finalement, aux marqueurs identitaires qui avaient été dégagés de manière discursive et que je peux maintenant connecter à l'action. C'est le cas pour d'autres gestes que j'ai identifiés. En fait, je vais les passer un petit peu plus rapidement. Le geste d'orchestrer, qui est un geste de pilotage, mais où plusieurs postures sont mobilisées dans les rôles de soutien à la création et de guide dans la découverte du mouvement. Un geste ici qui est un trio d'actes professionnels, prendre un recul par observation, donc observer, commenter et poser les questions, qui est un geste, je dirais, plus complexe, mais qui se passe comme un cycle. Alors, j'arrive à ma conclusion. Alors, dernier geste qui est dans mes analyses préliminaires, encourager à aller plus loin en création. Comment ça se fait avec les entretiens aussi qui font étayer en fait les liens plus précis. Voilà. Constat sur le projet pilote. Alors, la méthodologie d'entretien d'explicitation permet l'accès réel au comment le DMS agit ainsi qu'au ressenti dans l'action. Il s'agit d'un protocole de recherche pertinent dont nous avons emprunté par la suite certains aspects dans les entretiens d'autoconfrontation. Dans une phase ultérieure de l'analyse des résultats, nous avons aussi cherché à établir des liens entre ces gestes posés et la dynamique de création vécue par les jeunes en référant au modèle de Gosselin d'une dynamique de création en trois phases et en trois mouvements par phase. Tout ça pour quoi, pour qui, en fait? Selon les questions qui avaient été posées ce matin. Pourquoi? Pour donner un sens à l'identité professionnelle, c'est-à-dire la documenter, laisser des traces et réinvestir tous ces résultats, qu'ils soient préliminaires ou les résultats de construction identitaire, à l'intérieur de la formation, parce que les besoins, à mon avis, sont criants en recherche pour les réinvestir dans la formation professionnels, de futurs artistes enseignants. Voilà. Merci.
Merci. Merci beaucoup. S'il y a quelques questions...
Oui, je vous demandais juste un petit détail. Pourquoi vous parlez d'enseignante et non d'enseignant?
Très bonne question. Alors, il y a une majorité de femmes à la formation d'enseignantes de la danse. Je voulais bien inscrire un modèle de construction identitaire d'enseignant. Par contre, je n'ai pas eu de participants masculins dans ma recherche. J'aurais bien aimé. Il n'y avait que 18 femmes entre un an et 20 ans d'expérience dans le milieu scolaire. Oui. C'est pour ça que c'est à la fois... je ne peux pas généraliser ce modèle. Il est pour quelques enseignantes, donc c'est des possibilités et non pas... C'est une théorisation et non pas un modèle généralisable. C'est pour ça que je garde l'idée de « peut construire ». On peut construire à travers ces sphères, mais...
Merci Hélène. Moi j'aurais deux petites questions. Une première, ce serait qu'est-ce que tu obtiens différemment en usant de l'entretien d'explicitation en usant de l'entretien d'autoconfrontation?
Ah, très intéressant. Je ressens quelque chose de beaucoup plus profond parce que l'entretien d'explicitation vise à chaque fois aller plus loin. Par exemple, si quelqu'un dit « j'observe l'élève », et pour toi, qu'est-ce qu'observer? Donc, qu'est-ce qu'observer pour moi? Ou que fais-tu lorsque tu observes? Ça renvoie toujours à l'action concrète et au détail de l'action. Ce que je me rends compte, dans l'entretien d'autoconfrontation, ça prend plus de temps avant que l'enseignante se centre sur elle, ses actions. Souvent, il y a toute une historique et un contexte qui est donné des jeunes auxquels elles enseignent, parce que j'ai trois femmes. Donc, il y a beaucoup de spécifications de contexte, on me décrit l'élève en question, ses difficultés, tandis que par l'entretien d'explicitation, on est tout de suite au sujet. Donc, c'est la différence. Mais je dirais que c'est un peu complémentaire. J'arrive à la complémentarité, parce que là, je suis à développer sur l'analyse des observations participantes. Et puis, j'ai commencé à dégager l'analyse des gestes qui ont été recensés à partir de l'autoconfrontation. Je trouve autre chose que ce que j'ai trouvé à partir de l'entretien d'explicitation.
Parce que du coup, un deuxième élément de la question, c'est que bon, moi, j'utilise depuis très longtemps les entretiens d'autoconfrontation et je commence à utiliser les entretiens d'explicitation. Et du coup, une question qui se pose, c'est lequel précède l'autre? Parce que ça ne me semble pas tout à fait neutre non plus. Donc, toi, quel choix tu as fait? Pourquoi?
J'ai fait le choix. J'ai consulté deux collègues, dont Nicole Arbonnier, qui est aussi formée en entretien d'explicitation, et Caroline Raymond. Je leur ai demandé, en fait, leur point de vue là-dessus. Elles m'ont conseillé de commencer par l'entretien d'explicitation, et ça a été très judicieux. Parce qu'après... quand on relançait, quand on sentait que l'enseignante allait trop vers des éléments de contexte ou d'historicité de l'élève, on pouvait mieux ramener. Puis la question, on ramenait des fois des questions de type entretien d'explicitation dans l'entretien d'autoconfrontation. C'était intéressant, l'espèce de les vases communicants. Un était réinvesti dans l'autre. Je ne sais pas si c'est ce que tu as fait, Joël, mais... On en parlera.
Une dernière question, sinon on a...
Si on n'a pas d'autres, je ne voyais personne lever la main. Qu'est-ce que tu entends par accompagnateur? Qu'est-ce que ça veut dire dans la classification que tu donnes, dans la proposition? Qu'est-ce que c'est
être accompagnateur? C'est la posture un peu du compagnon, c'est d'être à côté. C'est pas guide. Je fais une différence entre guider, qui est plus interventionniste, accompagné, d'être présent, comme plus le compagnon. Je trouvais que par les analyses de données, il y avait une différence entre les deux. Oui. Mais souvent, on utilise les deux. Mais je conserve les deux. Est-ce que ça répond?
Oui, oui.
Et comme l'idée du compagnon réflexif, cette idée d'être avec, merci, comme compagnon.
Et comme on va arrêter, je voulais juste, tout à l'heure, je voulais prendre la parole, mais ce n'était plus le moment, pour rebondir, comme c'est quand même, on est vraiment sur ces débats de la recherche en danse, par rapport à ce que disait Laure tout à l'heure, et que je trouve important de, peut-être de se questionner sur le fait qu'on a très peu d'équipes qui travaillent ensemble, justement en étant un historien, etc., et que c'est quelque chose qu'on use très très peu dans la recherche en danse actuellement. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui serait vraiment intéressant de développer, et je trouvais que ta remarque par rapport au travail de Nicole me permet de poser ça, quoi, dans nos discussions éventuelles.
Merci. Ouais. On va peut-être arrêter ici. Merci beaucoup pour l'intervention.